truly calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Break.
Vous écoutez une émission de radio. Ne déconnectez pas votre poste. Bienvenue sur 93.9 FM. Vous écoutez concrètement.
Un groupe de jeunes insouciants.
Waza !
Ce soir,
on va faire la fête.
Tu pars prendre de la drogue dans les bois.
Les gars, vous êtes sûrs que c'est une bonne idée ?
Qu'est-ce qu'il y a ? On a une poule mouillée !
Mais à la pleine lune, un danger rôde.
C'était quoi ça ?
On dirait !
Ils ne le savent pas, mais ils sont déjà morts.
C'est un homme ?
C'est un loup !
Non !
C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai !
Évidemment que c'est pas vrai, Enak, c'est un film d'horreur.
Non, mais en fait, je dis que c'est pas vrai qu'un film ça ressemble à ça. Et moi, je m'y connais, donc...
Ok, mais du coup, ça devrait ressembler à quoi un film d'horreur selon toi ?
Un groupe de jeunes drogués va prendre des drogues.
On est drogués et on va dans la forêt.
Sauf que quand ils arrivent dans la forêt, ils sont en danger. Attends, c'est quoi ça ?
C'est Kane, l'homme loup.
Sauf que les jeunes drogués ont amené un robot avec eux pour les protéger.
Je suis Kane, l'homme loup.
Pour la dernière fois, j'espère.
Attends, c'est n'importe quoi ton histoire là.
Bah vas-y monsieur, je sais tout. Tu t'y connais mieux que le mec qui fait des histoires d'horreur ? Je crois pas, non.
Non, mais un film d'horreur, c'est pas forcément des gens qui se font tuer. Ou des combats à main nue. Genre, si ça se trouve, dans ton histoire, les jeunes drogués font la fête, ils prennent de la drogue et là, ils voient l'homme loup. Ils disent rien parce que, au fond, ils savent que le loup c'est eux. Parce que quand ils prennent de la drogue, ils réveillent le loup en eux. Alors peut-être qu'il se passe rien, mais qu'en fait, on a tous un loup-garou au fond de nous.
Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! J'ai pas de loup-garou en moi!
Non mais arrêtez vos conneries, hein. De toute façon, on voit jamais ça, là, des histoires de loup-garou qui mangent des... Oh putain, c'est quoi?
Vous écoutez toujours une émission de radio nommée Concrètement.
Ok, on va être cash. Aujourd'hui, on parle de films d'horreur contemporains et va y en avoir pour un petit moment parce que les films d'horreur contemporains, eh ben, c'est grave de la merde.
Alors là, non, je veux pas faire un épisode où on se plaint pendant 20 minutes.
Ok, mais c'est pas ce qu'on fait à chaque fois en vrai.
C'est pas parce que c'est objectivement vrai en tout point que j'ai tort. Faut mettre un peu de nuance, je sais pas.
Franchement, c'est... Bon, tu sais quoi ? Ok. Si tu penses qu'on doit garder notre calme, eh bah je te fais confiance. On va garder notre calme.
Merci.
Et puis au fond, c'est vrai, y a pas raison de s'affoler.
Il faut absolument arrêter l'épisode, sinon on va tous mourir.
Ok, c'est bon, je reprends.
Mais vous comprenez pas ? On va tous mourir !
Non, Enak, on comprend pas et c'est pas le moment, donc voilà, je vais reprendre. Du coup, le cinéma d'horreur contemporain, c'est pas bien, mais apparemment, faut mettre de la nuance. Mais vous savez quoi ? Limite, ça tombe bien. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Et pourquoi il y a plein de choses à dire ? Eh bah... Parce qu'il se trouve que l'horreur a le vent en poupe de nos jours. Et que l'une des raisons pour lesquelles le vent est... la poupe est dans le vent... Vous savez quoi ? J'ai jamais compris cette métaphore. Donc, pour faire simple, il y a plein de choses à dire parce que le cinéma d'horreur remplit les salles pour la même raison qui m'énerve. En gros, cette raison, c'est qu'il s'élève. Vous avez bien entendu. Apparemment, de nos jours, les films d'horreur s'élèvent. Il s'élève dans le sens de « il se tire vers le haut », c'est vraiment le concept. C'est un terme à part entière, « elevated horror », et vous l'avez déjà deviné, il y a de quoi faire câbler, mais faut ouvrir le débat aujourd'hui apparemment. Bref, alors que l'horreur change, alors que l'horreur divise, une question se pose. Est-ce que l'horreur s'élève ? Et la réponse évidente, bah c'est un grand non. Mais pour commencer, on va mettre deux, trois petites choses au clair. Ce terme « elevated horror », ça veut dire quoi dans les faits ? Eh bah, on sait pas. Ou plutôt, personne ne sait vraiment parce que c'est sorti un peu de nulle part. En gros, on utilise le terme pour désigner un sous-genre du cinéma d'horreur contemporain. Quelque chose de cérébral, pétri de volonté artistique affirmée, de l'horreur élevée, comme son nom l'indique, dans le sens où les films lèvent l'horreur vers le haut en raison de leur proximité avec le cinéma d'art, entre de très gros guillemets. Typiquement, les films d'horreur qui sortent du studio A24 sont considérés comme de l'elevated horror. Le terme est vraiment apparu aux alentours des années 2010, et c'est pas pour rien. Avec la sortie de The Babadook, ou It Follows, on a commencé à constater une véritable trend de films d'horreur qui portent sur leur manche la volonté de dire des choses à travers l'horreur.
On peut tracer plus loin, mais je pense que vous l'avez déjà compris.
Il y a un énorme problème avec ce concept d'horreur élevée, puisque c'est une notion qui se repose intégralement sur une certaine compréhension du cinéma d'horreur, de l'art en général même. Et pour être poli, on va dire que c'est légèrement questionnable. Voire même, on va pas être poli en fait. L'argument de l'élévation de l'horreur par le cinéma contemporain, c'est un argument de con. Je veux dire, le terme fait même pas sens. Elevated horror, ok. Elevated par rapport à quoi? Vous êtes en train de me dire que les films d'horreur d'avant les années 2010, ils étaient trop cons ou pas assez nobles? Et puis c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas classifier l'art comme ça. On peut apposer des jugements sur une époque, mais vous pensez vraiment que le 21e siècle a réinventé un genre tout entier? Mais vous êtes fous! À sa racine, le concept d'Elevated Horror pose problème car son existence même suppose de voir l'histoire du cinéma d'horreur d'une certaine manière, et cette manière, on vous l'a dit, elle est complètement conne. Voilà. Déjà parce que les codes qu'on impose au sous-genre existent depuis toujours, il y a même des mouvements entiers qui sont partis de ça. Et puis même si vous voulez faire une grande liste avec tous les films de l'histoire dont les codes s'apparentent à de l'Elevated Horror, eh ben, vous obtenez juste une liste incroyablement similaire aux grands classiques de l'horreur. Bref, le concept même d'Elevated Horror présuppose une mauvaise compréhension de l'histoire du cinéma d'horreur. Son existence, sa popularité et surtout son écho dans le jugement des gens, c'est un problème. C'est la preuve que le narratif dominant autour de l'histoire de l'horreur est tout simplement erroné. Que l'opinion dominante sur un sujet soit définie par des gens random, ok, au fond on s'en branle. Mais quand cette opinion dépend intégralement d'inculture et de désintérêt, les cultivant au long terme, on a le droit de se poser des questions. Et puis c'est même pas si malin que ça. Faut le dire à un moment, hein. On parle d'horreur élevée, mais les films en question, ils sont pas vraiment... Enfin, je vais pas dire qu'on est sur une régression par rapport à la sacro-sainte horreur d'antan. Je le pense, mais je vais pas le dire. Le truc, c'est que, pourquoi est-ce qu'on parade comme ça le cinéma d'horreur des années 2010? Pourquoi on dit que ces films s'élèvent par rapport aux autres? Alors apparemment, ils reprennent les codes du film d'art, entre guillemets. D'accord. Mais pourquoi faire? Est-ce que leur proposition est vraiment révolutionnaire, intéressante? Ou est-ce que c'est pas juste que leur mécanique s'avère plus lisible et indulgente envers elles-mêmes que leurs ancêtres? Ancêtres que les gens voient visiblement comme de la merde. On va pas passer par quatre chemins, on penche plutôt vers la deuxième option. Les fameuses mécaniques que déploient ces films, bah c'est un peu, beaucoup, intégralement, de la métaphore, de l'allégorie, de l'image. C'est simple. Mais puisque c'est hyper accessible, le public le voit direct, l'analyse, et pense donc que ces films sont plus profonds, aussi réducteur ce jugement soit-il. Et ça fait sens. Les gens adorent voir les œuvres d'art comme des énigmes à décoder, avec une sorte de théorie maître. Je sais pas pourquoi chaque film est vu comme un objet dont le sens a été caché par l'auteur, comme si on parlait d'une carte au trésor, et il faut résoudre le film. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Il y a des formes d'expression plus complexes que la métaphore, et l'intérêt d'une œuvre ne se résume pas aux intentions de son auteur. C'est une lecture assez puérile de l'art, et l'Elevated Horror tape en plein dedans, au point où son succès semble explicitement indiquer que ce genre de lecture a le vent en poupe aujourd'hui. Encore et toujours, on parle de choses dans l'ère de notre temps.
Désolé de te couper, mais tu peux pas tout justifier en disant « les gens sont des cons ».
Non mais c'est pas ce que je veux dire, c'est plus que...
Maintenant vous allez m'écouter ou on va tous mourir!
Mais c'est quoi ton putain de problème?
Mon problème c'est qu'on est en train de faire ce qui se passe quand dans les histoires d'horreur les gens ils s'en fichent de ce qui se passe et qu'ils se font donc tuer, voilà!
Non mais d'où tu sors un truc pareil?
Ça m'a été révélé dans une vision.
Mais c'est bon, je me casse!
Non mais j'ai une vision comme dans un film d'horreur où quelqu'un a une vision! Sauf que moi c'était quand je dormais, et je l'ai même écrit comme l'une de mes fameuses histoires qui font peur.
Et je te jure, si c'est un prétexte pour que tu nous lises encore une creepypasta à la con, je vais péter un câble.
C'est pas un prétexte, mais oui, je vais lire l'histoire en entier et je vais faire les voix. Il était une fois un groupe de jeunes. Ils sont jeunes et cool et ils ont grave pas peur. Quand notre histoire commence, ils sont en soirée. Et bien évidemment, ils se racontent des histoires qui font peur. Parmi eux, il y a un garçon qui est plus discret, mais secrètement beau gosse. Le truc, c'est que lui, il a facilement peur. Alors les autres se moquent de lui. Ils lui disent des trucs comme « Tu dors avec une lumière ou... ?» Ou encore « Attention, ce soir il y aura un monstre sous ton lit. » Il aime pas quand on se moque de lui, mais ce qu'il sait pas, c'est que sa peur, c'est secrètement un super pouvoir. C'est une façon de parler, mais pas vraiment, car il a aussi peut-être des pouvoirs, mais il ne le sait pas. Bref, à un moment, il va aux toilettes. Sauf que les toilettes sont au fond du couloir, alors sur le chemin, il s'arrête à la fenêtre, et là, il voit une créature! C'était une femme qui n'avait pas de jambes, et qui avait deux couteaux dans les mains, et c'est comme ça qu'elle avance. Alors le garçon, il a grave peur, il crie Aaah! Et il revient en courant voir les autres, et quand il arrive... Il peut à peine parler. Alors l'un des autres garçons, il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? On se fait pipi dessus parce qu'on a peur? Et c'est là que notre héros réalise. Vu qu'il voulait aller aux toilettes et qu'il se retenait, donc en ayant peur, il ne s'est plus retenu, il s'est pissé dessus, tout le monde s'est mis à rigoler. Il y a même une fille qui a dit « Hé, regardez, il s'est pissé dessus comme un bébé !» Et là, le garçon, il a senti tout le pouvoir de sa peur monter en lui, et il a dit « Je ne suis pas un bébé !» Et toute la pièce a bougé à cause de sa télékinésie, et tout est parti en l'air, sauf que soudain, quelqu'un toque à la porte. Le garçon, il est par terre, il dit « Non, ça doit être le monstre !» Sauf qu'on l'écoute pas, car il a tout le temps peur, alors quelqu'un va ouvrir. Et c'était bien la femme monstre. Mais puisque le garçon avait déjà utilisé tous ses pouvoirs de peur, alors il n'a rien pu faire, et ils se sont tous fait tuer. Depuis, on sait qu'il faut faire attention à ce qu'on voit, et qu'il faut toujours écouter les gens qui ont peur.
Waouh ! Et du coup, selon toi, ça veut dire qu'on va se faire tuer.
Évidemment ! T'as pas remarqué qu'il y a un monstre dans les murs ?
C'est bon, stop ! On a lu ton histoire, c'était rigolo, maintenant tu vas arrêter de nous faire perdre notre temps, en fait.
Mais...
Stop ! Stop ! C'est bon ! Capiche ? Ok. Je vais relancer l'épisode et je veux rien entendre. Oui, du coup, je disais. Toutes ces choses dont on parle, ce sont des produits de notre époque. Du coup, peut-être que la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que l'horreur s'élève, mais pourquoi est-ce qu'on pense que l'horreur s'élève et pourquoi aujourd'hui? Et on va outrepasser tout ce qu'on a pu développer jusqu'à maintenant pour balancer la bombe. C'est du marketing. Oui, c'est cynique, mais au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Le terme même « elevated horror » n'a pas été inventé par une campagne de pub. D'ailleurs, il revient jamais dans le marketing des films qui le concernent. Mais... fondamentalement, le concept même, c'est du branding. Puisque beaucoup de gens traitent l'horreur comme une commodité, un produit censé procurer une certaine expérience, bah c'est hyper pratique, en fait. Ça facilite grandement le marketing. Voilà. La patine de tous ces films, c'est de l'image de marque. Sauf que la marque, elle est vendue par plein de studios différents, A24 notamment, mais aussi tous les studios qui veulent les concurrencer. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'horreur s'élève? Parce que c'est la prérogative sur laquelle se tiennent à la fois le marketing et l'image de marque de ces films. Un papier cadeau, la promesse d'un cinéma qui répond à la commodité du cinéma d'horreur tout en amenant une proposition plus cérébrale. Le meilleur des mondes dans l'idée.
Attends, tu parles d'une proposition plus cérébrale. Mais il n'y a même pas quelques minutes, tu disais que les gens interprètent les films comme des débiles. C'est pas un peu contradictoire?
Alors oui, mais en fait non, mais... Enfin moi je pense que c'est l'un qui influence l'autre, justement. Et c'est ça qui est intéressant. On en vient à se poser une question encore plus importante, à savoir, toutes ces choses, qu'est-ce que ça dit des gens?
La minute de sourire.
Bah, ça dit que les clients ont toujours raison et qu'on doit s'adapter. Si on veut faire un max de plata avant la fin, j'ai pas raison la mif. On doit rebrand cette émission. Et en vrai, concrètement, ce serait pas le premier cas d'Elevated Radio. Je veux dire, chaque personnage représente un peu une métaphore, moi le premier. Je suis pas juste un ancien toxico-gamer edgy qui a flirté avec des idées un peu cheloues, non. Je suis une métaphore de l'ubris, marquée par la transgression et l'excès de passion. Et Nak, lui... bah c'est pas qu'un bébé cadom qui a peur des loups-garous, non! Il représente la naïveté au sens latin du terme, il est à la source de tous les possibles et fait naître l'espoir dans le cœur de chacun. Et puis le gros Noé, bah, il vient équilibrer le tout. Il nous ramène à la raison lors de nos nombreux dérapages. Il est à la frontière entre le yin et le yang.
La minute de sourire!
Waouh, Souil, c'était pas une invitation au débat, mais... Ok, merci. Et tu sais quoi? Bah, quitte à ce qu'on fasse un petit moment où on donne tous notre avis, je sais pas, Enak, tu veux dire un truc? Tu dis toujours que t'es un expert de l'horreur, donc je sais pas. Enak, j'ai dit...
Je peux pas me retenir, en fait! On est trop en danger, car on va se faire tuer par un tueur ou manger par un monstre!
Oh!
Enak, les monstres, ça n'existe pas, t'as rien à craindre!
Oh, putain de merde! Donc toi aussi, tu l'entends, le monstre dans le mur?
Non, moi j'entends rien, et y a grave pas de monstres, parce que les monstres, ça n'existe pas, et que c'est que dans les films d'horreur, et que les films d'horreur, il faut pas y croire, parce que c'est pour ça qu'ils font pas peur. Moi, j'ai grave pas peur, et j'ai encore moins grave peur des films d'horreur. Alors, le monstre dans les murs, il n'existe pas, et moi, je vais reprendre l'épisode. En fait.
Mais on est en danger!
Je te dis que j'ai grave pas peur des monstres et des films d'horreur, alors on reprend. Voilà. Ok. Ouh. Ok. Est-ce que le décorum de l'Elevated Horror est uniquement une tentative cynique pour vendre des films? Non. C'est pas uniquement ça, mais ça joue un peu. Mais c'est pas que ça. Disons que les trends conditionnent la création. Et la création est compliquée en ce moment. Le cinéma d'horreur marche super bien au box-office depuis quelques années. L'horreur élevée est facilement marketable. C'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Une chose en amène une autre. Et... comme on vient de le répéter, il n'y a pas que ça. Souil avait raison de m'interrompre tout à l'heure. J'ai affirmé que l'Elevated Horror était la preuve que les gens veulent des propositions ciné plus cérébrales. Et sur le papier, ça a pas l'air de coller avec toutes mes plaintes sur le grand public et ses facultés d'analyse. Je le reconnais. Mais devinez quoi ? En fait, c'est moi qui a raison car je suis trop fort et que, en fait, bah, on parle d'un lien de cause à effet. Une chose en influence une autre. Si vous traînez beaucoup sur Internet, vous avez probablement entendu dire qu'on vit dans une époque d'illettrisme des médias ou d'illettrisme de l'art. On n'arrive plus à analyser correctement les textes et les images, apparemment. Et je dis apparemment, mais c'est vrai. Ça veut pas dire que les gens deviennent plus cons, ça veut dire qu'on vit dans un monde qui affaiblit nos capacités critiques. Je vous apprends rien en affirmant que les nouvelles technologies ont niqué nos capacités de concentration, que les réseaux cultivent des habitudes particulièrement néfastes en termes de compréhension et de digestion de l'information. Je vous apprends rien non plus en affirmant qu'on vit dans un monde où les gamins apprennent à lire dans des écoles vétustes et surchargées. Et je vous apprends rien en affirmant que toute expérience artistique est réduite à du contenu choisi algorithmiquement, nous enlevant toute chance d'être exposés par accident à des choses qui ne sont pas taillées pour nous, pour le meilleur et surtout pour le pire. Bref, d'autant diront que c'était déjà le cas avant, que tout ce qu'on décrit à l'instant n'est que l'évolution logique d'une société dominée par la culture du poste de télévision et sa politique du temps de cerveau disponible. Ce à quoi nous répondrons, oui, c'est à 100% vrai, littéralement, ça a installé le terrain pour tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça a engendré cet état sur le temps long qui décourage toute forme de réflexion. Mais du coup, quand vous alignez tout ça avec le fait qu'on traite les arts et la culture comme un amas de produits censés nous satisfaire, eh ben vous obtenez un bon cocktail de merde qui explique pourquoi les gens sur Internet sont énervants quand ils parlent d'art. Nous avons tous, et je dis bien tous, des appareils d'analyse rendus déficients d'une manière ou d'une autre par ce monde. Et nous devons tous engager avec de l'art créé dans un monde où la satisfaction client est monnaie. En conséquence de quoi, les gens interprètent les films comme des énigmes et ils veulent que les films cochent les bonnes cases. Et devinez quoi, l'Elevated Horror tape exactement là où il faut. Mais, plot twist, en fait, c'était un bon signe depuis le début. Parce que les gens sont loin d'être cons. La preuve, même dans ce monde catastrophique qu'on s'efforce de décrire, ils sont prêts à changer le paradigme du box-office contemporain juste pour avoir des films qui leur proposent au moins un peu plus que du divertissement. On vit dans un monde où un scénario original destiné à un public adulte et proposant plusieurs niveaux de lecture ne pourra jamais voir le jour. Fuck it ! On jette son dévolu sur l'Elevated Horror. Et on obtient donc des scénarios originaux pour des adultes avec quelques niveaux de lecture. On peut dire beaucoup de choses sur le terme d'Elevated Horror. Dieu sait que j'en ai envie, et Dieu sait que je me suis quand même retenu jusque-là. Mais on peut pas nier que, pour toutes les idioties qu'il véhicule, son existence est loin d'être injustifiée. Oh putain, je m'attendais pas.
Bon, monstre ou pas monstre, faut faire quelque chose. Si ça continue, moi je vais te le sortir, le truc dans
non,
le mur.
Non, imagine, c'est un animal dangereux. Ou un mec.
Un mec dans le mur.
Et tu sais pas.
Non, je sais pas, non.
Et Enak, il est où Enak? Il est pas là. Oh bah, on peut pas prendre de décision tant que Enak il est pas là. Et puis c'est une décision importante, donc voilà, on fait rien.
Eh vas-y, c'est bon, laisse-moi faire.
Attends.
C'est bon, ça peut pas être grand chose.
Putain, c'est quoi cette merde?
Pas un geste. J'ai amené un exorciste pour nous aider.
Disciple de Satan, démon, créature ignoble, retourne aux flammes comme ton maître. Oui, toi, petit homme visqueux, que ton âme sorte de ce corps putride et abandonne à tout jamais la terre des hommes. Le pouvoir du Christ t'oblige.
Stop. Arrêtez tout. C'est de ma faute.
De quoi tu parles?
Cette créature, c'est mon homonculus. Quand j'ai appris qu'on allait parler de films d'horreur, j'ai eu super peur parce que j'ai peur des films d'horreur. Voilà, je l'ai dit. J'ai peur des films d'horreur. Mais je voulais pas perdre mon statut de mec trop cool dans l'émission. Bah, je sais pas, il me fallait une sécurité, un truc pour me protéger. Et ça a donné cette créature. Et j'ai eu honte. Et je l'ai caché dans les murs. Mais j'ai eu tort. Oui, il est monstrueux. Mais n'est-il pas mon fils?
Noé.
Écoutez.
Noé.
L'homonculus peut parler.
Noé, tu dois me laisser partir.
Non, je peux pas.
Tu n'as plus peur, alors je n'ai plus besoin d'être là. Je suis fatigué, j'ai besoin de voir le soleil.
Mais je peux pas t'abandonner.
Tu ne m'abandonnes pas, tu me laisses partir.
D'accord, mais ne m'oublie pas.
Je ne t'oublierai jamais.
Est-ce qu'on le reverra un jour?
Non. Et c'est pour le mieux. Je vais relancer l'épisode et je pense que ça peut... On va relancer. Du coup. Ok. Avec tout ce qu'on vient de dire, Elevated Horror est un produit de son époque, qui a raison d'exister, et c'est la marque d'un public qui veut réfléchir, bah, on en arrive à se demander à quoi va ressembler l'avenir. Est-ce que la pseudo-élévation de l'horreur va marquer les générations futures ? Eh bah, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer plein de choses. Déjà parce que c'est comme ça que le temps fonctionne, mais surtout parce que, bah, enfin, vous avez écouté l'épisode. La source même du mouvement, c'est une lecture franchement faussée de l'histoire de l'horreur. Et un mouvement culturel se basant autant sur des faits erronés, c'est possible que dans un monde post-vérité. Je dis pas qu'au long terme, l'élévité d'horreur va détruire le poids de la vérité, mais comme tout plein de trucs, ça va conditionner l'état culturel qui facilite la normalisation de la post-vérité. Après, si on se pose la question pour se dire « Ah, comment ça va affecter l'art en tant que tel ?» Eh bah, on sait pas. Parce qu'on répète que c'est un produit de notre temps et que ça révèle notre envie d'engager avec de l'art exigeant, mais peut-être que ça matérialise autre chose. Je sais pas. Je veux dire, ça ferait sens sur le papier, c'est peut-être l'un des premiers courants cinématographiques portés par la génération Y. Ça résonne visiblement beaucoup avec la Gen Z. Peut-être que l'élévité d'horreur matérialise un shift générationnel, un glissement vers une culture plus jeune, et que, du coup, son poids dans la culture influencera quelque chose d'encore plus grand. Sur le papier, il y a de quoi. On vous renvoie à notre épisode sur l'horreur d'Internet. Les jeunes sont à peu de choses de lâcher une déferlante de créativité sur notre monde, alors peut-être qu'on devrait arrêter de regarder l'horreur élevée comme une finalité, et plutôt considérer ça comme un point de départ. Sauf que, encore une fois, bah, on n'en sait rien et on peut rien savoir. La vérité, c'est que tout dépend de gens beaucoup trop jeunes pour qu'on les comprenne. Sur concrètement, on a 24 ans. On est des vieillards. Alors oui, on peut sentir les choses qui changent à travers les mouvements culturels qui nous énervent, on peut théoriser, remettre le tout en perspective au nom d'une objectivité qu'on a vraiment du mal à définir, mais au fond, notre seule manière de savoir, coûte que coûte, c'est d'attendre, lâcher prise, et laisser les jeunes faire, au fond. C'est peut-être ça la grande raison pour laquelle l'horreur a le vent en poupe ces temps-ci. C'est le seul cinéma dans lequel vous pouvez trouver, en un claquement de doigts et à hauteur de n'importe quel public, des films réalisés par des jeunes. Et même des films réalisés par des gens de tous environs, y compris ceux qui n'y ont que rarement accès. C'est pas parfait, mais c'est mieux que la norme. Est-ce que l'élévité d'horreur est notre unique sauveur, le prix à payer pour un futur où nos générations peuvent créer des choses incroyables ? Non. Mais se poser ce genre de questions, ça a le mérite de nous orienter vers les faits. À savoir que, pour créer un avenir pareil, bah, il suffirait d'encourager les jeunes à se tourner vers l'art en leur donnant les moyens matériels de le faire. Et peut-être aussi qu'il faudrait encourager et donner de l'espace à l'expérimentation et à l'avant-garde, même quand c'est super bizarre ou fucked up. Et peut-être qu'il faudrait juste faire tout ce qui énerve les gens à la télé. Voilà. Quand les Anglais ont laissé les pauvres aller en école d'art, ça a donné les Beatles. Combien de potentiels Beatles font des BTS marketing parce qu'on laisse que les bourges devenir artistes dans ce pays ? J'ai même pas envie de savoir. Du coup, à défaut de pouvoir changer les choses, enfin à l'échelle de ce que la radio peut changer dans le cœur des hommes, on vous le crie haut et fort, faites des trucs bizarres. Faites de l'art masturbatoire, on comprend que dalle, elevated horror ou pas. Peut-être que ça peut sauver notre société. Ce qui est certain, c'est que ça risque de lui faire un peu de bien. Et puis c'est fun, c'est vraiment fun. Donc, en attendant qu'on se mette tous à faire de l'art un peu bizarre, en attendant qu'on arrête de se gouner sur l'elevated horror, en attendant que mon homonculus trace sa route vers une nouvelle vie, je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine pour le dernier épisode de Concrètement. Et oui, c'est toujours aussi dur de faire un générique. Du coup, les blases de tout le monde un peu au hasard. À la réalisation, à l'écriture et à la voix, Noé le Prêtre. À l'écriture et à la voix, Enak Doji. À l'écriture et à la voix, Souil Mankouri. À la communication, Lisa Texera, et, exceptionnellement, en guest star, à la voix, Ulysse Combasson. Pour le reste, c'est à la chance ou au catalogue de la SACEM.